Notre Dieu est puissant. Quel privilège de l'avoir dans nos vies et de marcher en comptant sur lui. Car tant que lui sera à nos côtés, tant que lui sera pour nous, croyez-moi, il n'y a rien, absolument rien qui pourra nous résister. Aucun obstacle ne pourrait nous empêcher de nous épanouir dans notre marche avec lui. Il n'y a aucune montagne qui pourrait se dresser devant nous et nous empêcher d'aller de l'avant. Tant que lui sera avec nous, tant que lui sera en nous et pour nous, croyez-moi, eh bien, nous irons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parole merveilleuse de ce chant, parole de nature à nourrir véritablement notre foi. Ma prière est que chacun de nous réalise que des chants comme celui que nous venons d'interpréter, eh bien, ce sont des chants qui sont là pour essayer un peu de booster notre foi. Alléluia. Essayer de nous communiquer la vraie conception, la vraie image, la vraie vision de celui qui est mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité au troisième jour et qui vit au siècle de siècles. Alléluia. Et comme nous l'avons vu, nous allons le voir encore aujourd'hui, nous rencontrons pas mal de problèmes dans notre marche avec lui parce que nous avons développé ou nous sommes en train de développer une conception de Dieu qui est aux antipodes, qui est à l'opposé, à l'autre extrême de la vraie conception de Dieu telle que nous trouvons dans l'Écriture sainte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons une fois de plus revenir donc et terminer aujourd'hui avec notre thème sur le comment grandir, comment croître dans la connaissance de Dieu, car ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions véritablement grandir. S'il y a quelque chose qui offense Dieu, c'est le statu quo. Alléluia. S'il y a quelque chose, mes amis, qui est un véritable obstacle dans notre vie, c'est le fait d'arriver à un point où on s'infatue, où on est content, on pense qu'on est arrivé et on n'avance plus. Et croyez-moi, quand on n'avance plus, en réalité, on recule. Comment grandir? Comment croître dans la connaissance du Seigneur? Eh bien, voilà donc une fois de plus le thème qui sera le nôtre ce matin. Et nous allons donc terminer aujourd'hui. Et avant de pouvoir lire le passage qui va donc nous servir de méditation à cette parole, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et je voudrais demandez à chacun de nous de pouvoir très objectivement se placer devant Dieu. Demandez à chacun de nous de pouvoir se tenir devant le Seigneur, lui dire « Seigneur, parle-moi. Enlève en moi tout ce qui pourrait m'empêcher de pouvoir te donner une écoute qui me permettrait de saisir ta pensée. Éloigne de moi toute distraction, que mon cœur soit complètement libéré de telle ou telle autre pensée, et qu'en vérité, en réalité, je puisse, Seigneur, saisir ta pensée. Alléluia. Nous voulons, avant de nous tourner vers ta parole, te remercier une fois de plus, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite, de nous tenir devant toi pour t'exprimer notre louange, notre adoration. Seigneur, au travers de tout ce chant que nous avons interprété, au travers de tous ces cantiques que nous avons chantés, Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce de pouvoir, ô Dieu, entrer dans ta présence, nous réjouir de ta présence, nous prosterner devant toi et te contempler dans ta sainteté absolue, contempler la magnificence, Seigneur, de ton sanctuaire et nous laisser, ô Dieu, irradier par ces rayons d'amour, ces rayons de justice et de sainteté qui émanent de ta personne, à l'instar de tous ces chérubins, de tous ces séraphins, Seigneur, qui à chaque moment publient ta louange, se prosternent devant toi, et par leur, Seigneur, par leur génuflexion, reconnaissent en toi le Créateur de toutes choses, le Souverain suprême, celui qui mérite que la terre entière, qui mérite que l'humanité tout entière, qui mérite que les hommes et les femmes, les anges, Seigneur, et toute l'armée du ciel se prosternent devant toi pour te rendre ce qui t'est dû. Merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes aussi de pouvoir nous asseoir à tes pieds pour te tendre une oreille afin, Seigneur, que tu nous parles. Depuis quelques semaines, nous sommes dans ce thème, Seigneur, en rapport avec la nécessité de développer une image et une conception de toi qui soit en adéquation avec, Seigneur, les vérités telles que nous les trouvons dans ta parole. Depuis quelques semaines, Seigneur, nous sommes en train de voir comment nous devrions grandir en toi. Et cette connaissance passe par le développement d'une vision, d'une conception de toi, Seigneur, qui soit claire, qui soit appropriée, qui soit en harmonie, ô Dieu, qui ne soit que le reflet de ta révélation écrite. Parle-nous ce matin, et une fois de plus, Seigneur, aide-nous à pouvoir recevoir ta pensée, à nous débarrasser de tout préjugé, de tout sentiment qui ne serait pas en conformité avec toi, afin que, très objectivement, comme Marie, nous puissions non seulement nous asseoir à tes pieds, mais aussi te tendre une oreille attentive et boire ta parole. Merci. Tu bénis ton serviteur et tu l'assistes, Seigneur, dans la proclamation de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comment donc grandir dans la connaissance de Dieu? Voilà une question qui devrait nous préoccuper plus que toute autre question, alors que nous faisons partie de son royaume, alors que nous marchons avec lui. Nous devrions, mes amis, essayer non seulement de comprendre comment nous sommes appelés à grandir, à croître dans la connaissance, mais nous devrions aussi tout faire, investir dans ce domaine de la croissance, de la connaissance de Dieu, dans ce domaine de l'expérimentation de Dieu. Car connaître Dieu, c'est plus qu'acquérir un savoir théorique, un savoir philosophique, un savoir religieux, un savoir, je dirais, mystique ou métaphysique, quel qu'il soit. Connaître Dieu, c'est l'expérimenter, alléluia. Et nous ne pouvons pas l'expérimenter si nous ne savons pas comment l'expérimenter. Où se trouve Dieu? Et tant que nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions, il nous sera difficile de connaître une croissance qui nous permette, mes amis, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'acquérir une connaissance qui nous permette d'entrer de plein pied dans tout ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a une voie qu'il a tracée pour chacun de nous. Oui ou non? Alléluia. Nous faisons partie de son Église, dont il est la tête. Nous faisons partie de ce corps extraordinaire, dont nous sommes des cellules vivantes. Nous occupons chacun, pour sa part, une place particulière dans le corps du Christ. Il est donc important que chacun de nous comprenne que là où il est appelé à aller de l'avant. Il est appelé à croître. Et l'expérience d'Ésaïe, que nous trouvons au chapitre 6 de son livre, nous montre une fois de plus comment nous pouvons acquérir une image, une vision de Dieu, une conception de Dieu qui nous permette, mes amis, de croître dans sa connaissance et d'aller de victoire en victoire, d'expérience merveilleuse en expérience plus que merveilleuse. Nous sommes donc au chapitre 6 d'Ésaïe, et nous allons relire les 8 premiers versets de ce chapitre. Nous lisons. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il s'agit donc de ce lieu, le lieu saint, que les Juifs appelaient le Hétal, qui se trouve juste devant le Saint des Saints ou le Débir. C'est donc dans ce lieu-là que le Seigneur va se révéler à son serviteur. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine ou remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison du Seigneur évidemment, le temple, s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Amen. » Gloire au Seigneur. Expérience qui a eu un impact extraordinaire sur la vie d'abord du prophète lui-même. Expérience qui lui a permis de voir Dieu tel qu'il était, et puis ensuite de se voir lui-même comme Dieu le voyait, de réaliser son état moral et spirituel, et en même temps de voir les autres autour de lui, son peuple, tel que Dieu le voyait, et quel était le vrai besoin de ce peuple-là. C'est ainsi qu'après avoir fait cette expérience, après avoir entendu l'appel du Seigneur, l'apôtre, plutôt le prophète, va répondre de manière tout à fait positive à cet appel. « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Amen. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, cette expérience du prophète, eh bien, lui a permis d'ouvrir les yeux dans trois directions qui sont quelque part entremêlées. Cette expérience lui a permis, mes amis, de recevoir une vision, je dirais, comme je l'ai appelée, triphasée ou tridimensionnelle, puisque ça lui a permis d'abord et avant tout de voir Dieu tel qu'il est, assis sur son trône, de manière tout à fait souveraine, Dieu environné des êtres supérieurs en dignité, des anges, qui se prosternent devant lui et proclament sa sainteté. Il voit Dieu dans sa majesté extraordinaire, dans sa souveraineté glorieuse et dans sa sainteté absolue. Et cette vision de Dieu, mes amis, va lui permettre de réaliser, comme nous l'avons vu, ce qu'il était véritablement aux yeux de Dieu. Lui qui prêchait déjà la parole de Dieu. Lui qui avait un message radical. C'était un homme qui dénonçait et stigmatisait le mal sous toutes ses formes. C'était un mal qui mettait le doigt. Un homme plutôt qui mettait le doigt là où il fallait. Il a eu à dénoncer la consommation de l'alcool. Manifestement, l'alcool occupait une place importante parmi les gens de sa génération. Il a dénoncé pas mal de choses, voyez-vous. Et c'était un message extraordinaire. Un message, mes amis, qui montrait au peuple d'Israël ce que Dieu attendait de lui, ce que Dieu condamnait. Mais lorsqu'il reçoit la vision de ce Dieu-là, il réalise, lui aussi, qu'il n'était pas mieux que les gens auxquels il s'adressait. Que lui aussi avait besoin d'expiation. Il avait besoin de purification. Que lui aussi était pécheur comme les autres. Cette expérience lui a permis de réaliser la noirceur de son état spirituel, de son état moral. En même temps, ça lui a permis de prendre conscience du besoin, mes amis, d'aller chercher la purification, car Dieu ne s'est pas simplement contenté de lui montrer la radio, si vous voulez, la radioscopie de sa vie morale et spirituelle, mais le Seigneur lui a montré également comment il pouvait être débarrassé de son impureté, de sa souillure et de tout autre péché. C'est de l'autel qu'est partie cette braise qui va toucher ses lèvres et qui va donc expier son péché. Voilà donc la deuxième ou la première conséquence de la vision de Dieu. Et enfin, cette vision va donc lui permettre d'ouvrir les yeux véritablement sur son peuple, de réaliser quel était le vrai besoin du peuple parmi lequel il vivait, quel était le vrai état de ces gens-là. Cette fois-ci, mes amis, il répond à l'appel, non pas parce qu'il devait prêcher, mais il répond à l'appel parce qu'il a compris qui est ce Dieu-là. Lorsqu'il dénonce le mal, eh bien, il a véritablement horreur du mal. Cette vision est extraordinaire. Cette vision, mes amis, est tout ce dont nous avons besoin. Que ce soit au niveau de notre vie individuelle, personnelle, que ce soit au niveau de la communauté, il est donc important que nous sachions avec quel Dieu nous sommes appelés à interagir. Qui est ce Dieu-là? Voyez-vous? C'est parce que nous nous sommes laissés influencés par une vision que nos différentes religions dites chrétiennes nous ont communiquée, que nous avons fini par développer une personnalité légère vis-à-vis de ce Dieu-là. Que nous essayons d'une manière ou d'une autre d'excuser le péché, d'entretenir dans nos cœurs des sentiments indignes, des sentiments de jalousie, des haines, de mépris à l'égard des autres. Une vision, malheureusement, que notre religion, que notre expérience nous a communiquée et qui fait qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes, loin de la réalité. Or, ce que Dieu veut, mes amis, c'est que nous puissions le connaître comme il est. C'est que nous puissions développer une image claire. Nous puissions grandir dans une connaissance, eh bien, qui reflète véritablement les différentes vérités de la parole de Dieu, tel que nous le trouvons dans la Bible. Dieu ne change point. Dieu ne peut pas être manipulé. Dieu ne fait point exception des personnes. Dieu nous aime, mes amis, et il nous aime tous de la même manière. Il a un plan pour chacune de nos vies. Nous devons savoir qui est ce Dieu-là, mes amis. Et cette connaissance-là va nous aider à avoir une attitude conséquente, une attitude de déférence, une attitude de révérence. Cette vision va donc susciter en nous la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quels sont les résultats de cette vision tridimensionnelle, de cette vision que le prophète a reçue? Comment? Quels sont ces résultats? Eh bien, une chose que nous devons savoir, c'est que l'acquisition d'une telle vision, mes amis, n'est pas gratuite ni innocente. Cette vision-là finit toujours par avoir un impact dans notre propre vie. Alléluia. Cette vision, mes amis, finit toujours par nous transformer, par nous transfigurer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car il est impossible de voir Dieu dans sa sainteté, de voir Dieu dans sa justice, de voir Dieu tel qu'il est, mes amis, et de rester tel qu'on est, c'est-à-dire dans son péché. Voyez-vous? Il est important que cette vision de la sainteté de Dieu puisse nous imprégner. C'est cette vision-là qui va susciter ou qui va créer en nous la haine du mal, qui va nous aider à tout faire pour que notre vie soit en harmonie avec le Seigneur. On ne peut pas voir Dieu comme Ésaïe l'a vu. On ne peut pas être en contact avec le Seigneur dans sa sainteté et continuer, mes amis, à entretenir. C'est une vision qui nous transforme, alléluia. Elle change notre vie, gloire à Dieu. Et croyez-moi, le Seigneur voudrait que notre vie puisse être une vie qui est transformée, qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et si aujourd'hui beaucoup d'entre nous, mes amis, tournent en rond, beaucoup sont empêtrés dans toutes sortes de vices de la chair, beaucoup trouvent encore du plaisir à haïr les uns les autres, à entretenir des sentiments de jalousie, beaucoup d'entre nous jouent avec le péché, avec l'immoralité, c'est tout simplement parce que, mes amis, nous n'avons pas ou nous ne développons pas cette vision-là. Car si nous recevons cette vision, si nous sommes en contact avec la sainteté de Dieu, eh bien nous réalisons qui nous sommes. Et nous voyons que nous ne sommes pas mieux que les autres. Et nous nous tenons devant nous, d'abord pour nous-mêmes. Car cette vision est un véritable miroir pour nous, et non pas un rétroviseur pour voir les autres. Car dans la plupart des cas, on s'approche de Dieu pour voir l'autre, pour voir sa vie. Même la Bible, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur pour voir ce qu'il y a derrière nous, à côté de nous. C'est un miroir, alléluia. Et nous devons plonger nos regards dans ce miroir. Et ce miroir est le seul à nous donner la vraie image de nous-mêmes. Car le moi est tellement subtil et sournois qu'il arrive à nous donner une image fausse de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes spirituels plus que les autres. Même si nous prêchons la parole, cette parole nous concerne aussi et surtout. Car Dieu nous demandera plus à nous qui prêchons, alléluia. Dieu nous demandera plus. Voyez-vous? Beaucoup tournent en rond. Beaucoup se plaisent dans toutes sortes de vices. Beaucoup entretiennent l'impureté dans leur vie tout en sachant que la Bible condamne cela, tout simplement parce que ils n'ont jamais approché Dieu véritablement dans sa sainteté pour que leur noirceur se manifeste, pour que ce qui est enfoui dans leur cœur soit ramené à la surface et réalisé enfin la nécessité de se repentir pour tout cela. Voyez-vous, quand Dieu travaille, il travaille, alléluia. Amen. Il ne peut pas passer quelque part. Ou alors notre cœur reste fermé et nous continuons à nous contenter d'une religion même pentecôtiste. Mais quand Dieu passe quelque chose, il laisse toujours une trace indélébile. Il laisse toujours un changement. Les choses ne peuvent plus être les mêmes. Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une affirmation. Paul est affirmatif. Il déclare, mes amis, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Il ne dit pas que si quelqu'un est en Christ, il est une personne parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Nous l'atteindrons quand nous aurons quitté ce corps. Puisqu'il nous arrive même de pécher sans que nous en soyons conscients. Oui ou non? Eh oui. Le psalmiste pouvait dire, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi, pardonne mes péchés, mes transgressions, même celles que j'ignore. Ce n'est pas parce que tu es conscient, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, que ton inconscience va changer la nature de ce que tu fais et faire de cela quelque chose de bien, dès lors que c'est quelque chose de mal. Nous devons changer. Voyez. Je me souviens, lorsque le Seigneur nous avait amenés à reprendre une toute petite église en Wallonie, quelque part à Jean-Blou, c'était une église des Assemblées de Dieu, nous sommes arrivés, on a trouvé 6, 7, 8 personnes, sans plus, et je commençais à prêcher la parole de Dieu, et bon, je pouvais voir qu'il y a certaines attitudes qui ne reflétaient pas du tout l'amour du Seigneur, des attitudes à mon égard, jusqu'à ce qu'un jour une dame, une sœur, est venue me voir en me disant, pasteur, je voudrais vous confesser quelque chose. Quand vous êtes arrivé, je ne pouvais pas vous supporter parce que vous êtes noir. J'étais très raciste à votre égard, mais Dieu m'a parlé. Je viens vous demander pardon. Ouais. Ça m'avait touché, mais je savais. Je savais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est passé par là. Dieu a secoué son cœur. Cette femme a réalisé que ce qui fait la valeur de l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce qui fait l'homme, mes amis, ce n'est pas la forme de son nez, ni la texture de ses cheveux. L'homme reste une singularité faite à l'image de Dieu. Qu'il soit noir, qu'il soit indien, qu'il soit blanc, qu'il soit chocolat, café au lait ou autre, l'homme reste homme. Alléluia. La personne humaine, mes amis, a de la valeur aux yeux de Dieu, indépendamment de la couleur de sa peau. Peu importe la couleur de sa peau. C'est une vision qui nous change.
C'est une vision qui nous transforme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, les résultats sont extraordinaires. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Cet homme était un juif religieux, très fanatique, qui essayait, autant que faire se peut, plaire au Seigneur, à son Dieu, qui était très attaché à la tradition de ses ancêtres. Voyez-vous? C'était un homme qui cherchait la justice par l'observation de la loi, comme beaucoup d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais lorsque cet homme rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, lorsque Jésus se révèle à lui, ce religieux imbu de lui-même, ce religieux qui avait dans son cœur une haine terrible contre tous ceux qui se tournaient vers le Seigneur, cet homme-là, mes amis, va changer du tout au tout. Alléluia. Il va expérimenter une métamorphose radicale. Le cours de sa vie et de sa carrière, mes amis, fut littéralement retourné lorsqu'il rencontre le Seigneur. L'homme qui tombe de son cheval, qui se retrouve aveugle, qui entend la voix du Seigneur, aveugle parce qu'il venait de voir cette lumière qui brillait plus que la lumière du soleil. Cet homme qui entend Jésus lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Après cette rencontre, cet homme ne sera plus le même. Alléluia. Alors qu'il avait sa carrière bien tracée, pharisien, appelé à grandir dans le respect de la loi de Dieu, à être un de ceux qui devaient s'impliquer dans sa promotion, dans le respect de la loi, cette rencontre-là avec le Seigneur, mes amis, va changer, va créer une sorte de volte-face de 180 degrés. Cet homme va changer. Alléluia. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne dit pas « Pourquoi tu persécutes mon Église ?» Il dit « Pourquoi me ?» Tout ce que nous faisons à l'Église du Seigneur, c'est contre Jésus que nous le faisons. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous pouvons nous mettre Dieu sur le dos, même si nous avons un bon dos, et que nous nous appelons bon dos. Nous mettre Dieu sur le dos, ça veut dire aller au-devant des problèmes. Cet homme va changer, littéralement. Il ne sera plus le même, jusqu'à la fin de sa vie. Il va même mourir pour le Seigneur. Il va mourir pour le nom qu'il cherchait par tous les moyens à éradiquer de la terre. Quel changement extraordinaire! Il a vu le Seigneur, mes amis, dans cette vision extraordinaire, brillant plus que le soleil. Une vision que l'apôtre Jean recevra aussi plus tard sur l'île de Patmos où il était contraint à l'exil à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. Lui aussi là. Eh bien, Christ va lui apparaître. Il va voir quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme avec une longue robe et une ceinture d'or autour de ses reins. Et il nous dit que son visage brillait plus que le soleil. Alléluia. Une vision terrible. Lui qui avait une proximité grande avec le Seigneur, lorsqu'il reçoit cette vision, lui-même dit qu'il est tombé comme mort. Impossible, mes amis, de recevoir la vision du Seigneur et continuer encore à vivre dans la sphère de la chair. On réalise qu'on a besoin de sa grâce chaque jour qui passe. Alléluia. On réalise, mes amis, que c'est une chose terrible que d'enfreindre la loi de Dieu. On réalise qu'il n'y a pas de petits péchés ni de grands péchés. Le péché reste péché et est en abomination aux yeux de notre Créateur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cet homme, Paul, a reçu la vision de Jésus mort et ressuscité, et cette vision va le marquer pour le restant de sa vie. Alléluia. La première chose qu'une de ces visions provoque, la première incidence, évidemment, cette vision du Seigneur, c'est d'abord le fait qu'il soit précipité par terre. Lui qui allait qui était à la tête de toute une délégation pour aller arrêter tous ceux qui se réclamaient de Jésus à Damas, les enchaîner, les persécuter. Lui, le pharisien, qui respectait la loi. Vous savez, dans l'étymologie même du mot pharisien, pharache, veut dire séparé d'eux. C'était des gens qui, par l'observation de la loi, essayaient de se séparer du reste de la société, du péché, pour mener une vie qui soit en accord avec la parole de Dieu. Vous savez que souvent nous avons une image très stéréotypée des pharisiens. Nous pensons que les pharisiens, c'était tous des hypocrites. Mais il y en a qui étaient sincères. L'apôtre Paul lui-même l'a dit, qu'il respectait la loi, qu'il faisait tout pour plaire à Dieu. Voyez-vous, Paul a changé. Cette vision l'a précipité. Il a réalisé qu'il était perdu. Lui, l'homme imbu de lui-même, lui qui appartenait à un des partis importants, les pharisiens, parti qui avait une grande influence en Israël. D'ailleurs, après la chute de Jérusalem en l'an 70, le pharisaïsme est la seule composante du judaïsme qui est restée. Toutes les autres composantes ont disparu. Après la 70, on ne parle plus des sadducéens. Après la 70, on ne parle plus des hérodiens, on ne parle plus des disciples de Qumran, les esséniens. Voyez, après 70, il n'y a que les pharisiens qui sont restés. C'est ainsi que le judaïsme qui va se développer après l'an 70, après donc la chute de Jérusalem par les armées romaines, ça va être un judaïsme pharisaïque, marqué par les croyances, par la pratique, telle qu'elle était observée par les pharisiens. Cet homme réalise que cette fois-ci, non, il n'est pas différent que les autres. Lui qui conduisait la délégation, quand il se relève de là, il perd la vue. Ce sont les autres qui le prennent et qui le conduisent. Oui ou non? Quelle humiliation. Voyez? Cette vision nous change. Cette vision nous transforme. C'est pourquoi, mes amis, nous devons absolument chercher par tous les moyens à acquérir, à développer une vision comme celle-là. Alléluia. C'est de cette manière que nous serons transformés chaque jour qui passe en l'image du Seigneur, transformés à sa ressemblance. C'est en laissant cette vision du Seigneur imprégner nos pensées, en laissant cette vision s'installer en nous, que nous réaliserons, mes amis, que le règne et le royaume de Dieu sont appelés à être une priorité absolue pour nous. Quand on a compris cela, on ne s'encombre plus, mes amis, de toutes sortes de choses, voyez-vous. On n'est plus intéressé par le matériel, par tout ce qu'il y a dans ce monde. On sait qu'on peut avoir ces choses ou ne pas les avoir, ce n'est pas ça qui fait la valeur de la vie.
Alléluia.
La vie a sa valeur, indépendamment du contexte social, indépendamment de l'état de notre intellect, de notre cerveau. Voilà, mes amis, pourquoi nous devons absolument développer cette vision. Parce qu'elle finit toujours par nous changer en bien. Alléluia. Nous transformer, nous transfigurer à sa ressemblance et à son image. Alors, quel est le moyen, enfin, pour pouvoir développer, pour pouvoir acquérir cette vision tridimensionnelle, cette vision qui s'articule donc autour de ces trois axes, tel que nous la trouvons dans ce livre. Nous voyons dans notre passage, le passage que nous avons lu, qu'Ésaïe a reçu cette vision, non pas lorsqu'il était quelque part, au bord d'un lac en train de pêcher. Il a reçu cette vision, non pas alors qu'il était quelque part. Il a reçu cette vision parce qu'il est entré dans le temple du Seigneur, alléluia. Il est allé au temple, et comme nous le savons, à la lumière de la parole de Dieu, le temple était le lieu de la rencontre de l'homme, du peuple avec Dieu. C'était donc un lieu consacré à la prière, sous toutes ses formes. Un lieu où le peuple d'Israël devait monter, devait aller pour rencontrer Dieu, pour recevoir de Dieu des instructions, pour recevoir de Dieu toutes sortes de grâces. Il est monté au temple.
Alléluia.
Plus tard, le Seigneur lui-même dira, alors qu'il était passé par le temple de Jérusalem, et qu'alors qu'il y était, il voit cette scène terrible des hommes et des femmes qui trafiquaient, qui faisaient commerce dans la maison de Dieu. Voyez-vous, c'est vrai. C'était une pratique courante. Pourquoi? Parce que vous avez des Juifs qui venaient du monde entier et qui devaient faire des sacrifices. Alors ils ne pouvaient pas, imaginez-vous un peu ceux qui devaient partir de Corinthe, ils ne pouvaient pas amener des animaux pour aller les sacrifier à Jérusalem. Ce qui fait qu'on pouvait trouver, là, le temple était très grand, un lieu où tous ceux qui venaient pouvaient acheter, ceux qui n'avaient pas assez de moyens, un pigeon ou une colombe pour offrir comme sacrifice, car pour le péché, il fallait que le sang coule absolument. Ça se faisait. Mais avec le temps, mes amis, c'était plus maintenant le commerce qui comptait. Les gens allaient là-bas pour faire des affaires. Les gens allaient là-bas pour se livrer à toutes sortes de marchés, des transactions. Et quand le Seigneur est arrivé, mes amis, il a piqué une de ses colères saintes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu, car ma maison est appelée à être une maison de prière. C'était donc un lieu où les gens allaient rencontrer le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le Seigneur va rencontrer Esaïe dans le lieu saint. On l'a déjà dit, vous le savez. Le temple était constitué de deux grandes parties, sans parler du parvis. Vous aviez le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint, le Hékal, et le lieu très saint, le Débir, il y avait donc un voile soutenu par quatre colonnes. Voyez-vous? Et c'est dans le lieu très saint que se trouvait l'arche et les tables de la loi. C'était le lieu le plus saint, le saint des saints. Voyez-vous? Et ne pouvait y entrer dans ces lieux très saints que le souverain sacrificateur, et il le faisait une fois l'an, lors du jour du pardon ou le Yom Kippour. Quand il entrait là-bas pour présenter les sacrifices pour les péchés du peuple. Esaïe est entré, il devait être sacrificateur, puisque dans ce lieu-là, il n'y a que les sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Il est entré dans le lieu saint, dans le Hékal, et le Seigneur est venu à sa rencontre, alléluia. Gloire au Seigneur. Il est entré dans ces lieux pour pouvoir rencontrer le Seigneur, pour pouvoir prier, pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur demandait dans sa loi. Car c'est dans ce lieu saint qu'on trouvait la table sur laquelle il y avait des pains de proposition, qu'il y avait le chandelier avec les sept branches, qu'il y avait donc cet autel sur lequel il y avait des pains de proposition. C'est donc là, mes amis, où l'autel de parfum. C'est là que le Seigneur est venu le rencontrer. Il est venu là, mes amis. Oh, le Seigneur voudrait que nous apprenions à nous approcher de lui. C'est l'invitation que Dieu adresse à son peuple. Depuis l'ancienne alliance, jusque dans la nouvelle alliance, il y a une seule promesse. Il y a une seule parole qui exprime, mes amis, la passion de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous. Pour nous qu'il s'est acquis par la mort et la résurrection de son Fils, c'est celle que nous trouvons dans Hébreux, ensuite dans Jacques, où il nous est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Esaïe l'avait déjà vécu. Il est entré là-bas et le Seigneur s'est approché de lui. Il s'est approché de Dieu, mes amis, et le Seigneur s'est approché de lui et c'est là qu'il a reçu cette vision. Il était monté au temple pour prier, pour s'attarder dans la présence de Dieu, pour avoir un face-à-face avec Dieu. Il est entré dans le calme, mes amis, pour chercher le secours du Seigneur, dans ces lieux saints, dans ces lieux consacrés à Dieu, et c'est là, et seulement là, que Dieu est venu le rencontrer, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est là qu'il a reçu cette vision tridimensionnelle. Mes amis, nous ne pouvons pas grandir dans notre marche avec le Seigneur, si nous n'acquérons pas cette vision, et nous ne pouvons pas acquérir cette vision, mes amis, si nous n'apprenons pas à entrer dans la présence de Dieu, c'est ici que nous voyons une fois de plus l'urgence, la nécessité et l'importance d'avoir une vie de prière régulière. Alléluia. C'est en entrant régulièrement dans la présence de Dieu que là nous recevons, mes amis, son image, que nous recevons la vraie vision de sa personne. Vous ne pouvez pas acquérir cette image simplement en venant et en chantant, en dansant. N'importe qui peut chanter, même le louange de Dieu, oui ou non. N'importe qui peut faire tout ce qu'il veut, mais n'importe qui ne peut pas entrer dans le saint lieu. Alléluia. Il ne peut pas entrer dans le sanctuaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous avons accès au sanctuaire de Dieu par une voie nouvelle, par un chemin nouveau que Christ, mes amis, a inauguré. Ce chemin passe par une personne. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. C'est par Jésus, au travers de Jésus, que nous pouvons entrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes là, alors le Seigneur, lui, le divin potier, se met à l'œuvre. Il commence à façonner notre vie selon sa personne. Nous recevons cette vision quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. La prière, encore la prière. Pas des prières flash, pas des prières religieuses qui consistent à dire beaucoup de choses pour ne rien dire. Pas des prières parce que tout le monde prie, et bien moi aussi je prie. Vous savez, quelquefois par imitation, par mimétisme, il nous arrive aussi de prier. Dans certaines communautés, dès qu'on arrive, prions tous ensemble. Amen, amen. La prière est appelée à être un dialogue. C'est un face-à-face avec la personne la plus merveilleuse qui soit dans l'univers. C'est un face-à-face, c'est un rendez-vous avec celui qui nous aime plus que tout au monde. Jésus, et Jésus seul. Voilà pourquoi l'auteur de cet épître aux Hébreux, après avoir dit que Jésus a inauguré cette voie, Jésus a rendu accessible, mes amis, la route qui conduit à la salle du trône sur laquelle est assis notre Père. Et l'auteur ne se contente pas simplement de nous donner cette bonne nouvelle en disant que désormais, quelle que soit sa culture, quel que soit ce qu'on est, désormais, par Jésus, en Jésus-Christ, on peut accéder. Il termine au chapitre 10 des Hébreux en disant, approchons-nous donc, puisque nous avons cet accès auprès du Père, puisque, mes amis, le voile a été déchiré, eh bien, maintenant, approchons-nous donc avec un cœur. Oh, gloire à Dieu. Nous l'avons vu, hein, en semaine, ou je ne sais pas si c'est la semaine passée. Approchons-nous du trône de la grâce avec un cœur sincère, littéralement, un cœur véridique, sans fausseté, sans hypocrisie, sans duplicité. Un cœur sincère, véridique, un cœur débarrassé de toute mauvaise conscience. Dieu voit tout, il n'y a rien qui lui échappe. Si ta conscience te reproche, la Bible nous dit, il est plus grand que ta conscience. Alors repens-toi. Ça ne sert à rien d'ouvrir sa bouche, de commencer à le louer, etc. Vous risquez simplement d'être au parvis et de vouloir le louer là-bas, ce qu'il veut. Ce n'est pas temps de proclamer quelque chose. D'ailleurs, la prière, nous le verrons, peut revêtir différentes formes. Hein. Souvent, nous ne voyons que la forme verbale, c'est-à-dire nous proclamons. Par la prière, nous parlons à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais comme je lisais encore ce matin, la prière est aussi méditation devant lui. Méditation dans sa présence, alléluia. La prière, c'est aussi la contemplation. Alléluia. On entre dans sa présence pour le contempler. On entre dans la présence, mes amis, pour s'ouvrir à lui, afin que lui qui est la lumière puisse nous illuminer. Et lorsque ces rayons de lumière, mes amis, nous traversent, ces rayons-là consument tout ce qui est de la chair. Et c'est pourquoi quand on sort d'un moment de communion profonde avec le Seigneur, on ne voit plus le monde la même chose.
Alléluia.
Quand on sort, on est brisé. Quand on sort, on est conscient que s'il nous a reçus, s'il nous a accueillis, c'est tout simplement par grâce. Il est entré là pour louer, adorer le Seigneur. La prière, le psalmiste dira, « Oh Dieu, même le silence est prière pour toi. » Il y a des moments où on ne dit rien, mais notre cœur est en communion avec le Seigneur.
Alléluia.
Des moments où on ne dit rien, nos lèvres bouchent, comme Anne, la femme d'Elkana, au point où le sacrificateur Élie avait même cru que cette femme avait bu. Comment elle peut venir bouger ses lèvres sans qu'aucun mot ne sorte? Mais son cœur était, ses penchés se répandaient devant Dieu. Cette femme pleurait, cette femme parlait. Bref, c'est nous, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, que nous pouvons, mes amis, acquérir l'image de Dieu, recevoir la vraie conception de Dieu, voir Dieu tel qu'il est, alléluia. Et lorsque nous le voyons, lorsque nous sommes véritablement en contact avec lui, alors son image va se refléter en nous. Et lorsque son image de beauté absolue, son image de sainteté absolue se reflète en nous, alors nous réalisons, mes amis, des zones de trous noirs dans notre vie. Nous réalisons de l'impureté, de la souillure en nous, et nous comprenons qu'il a tout accompli sur la croix, et nous sollicitons le pardon, ce pardon qu'il nous offre, alléluia. Là, dans le lieu saint, le prophète a reçu. Mes amis, nous devrions travailler notre vie de prière. Voyez-vous, j'aime cette expression « vie de prière » que seulement la prière. Vie de prière, comme la vie, comme n'importe quel type de vie, la vie de prière a aussi sa loi fondamentale. Oui ou non? Comme le Congo a sa loi, qui est sa constitution. La prière a aussi sa loi fondamentale. Et nous devons comprendre, mes amis, que la prière met deux personnalités ensemble. La personnalité divine et la personnalité humaine. C'est le seul moyen où la créature rencontre le Créateur, là dans le Saint. Alléluia, le Saint lieu. La prière est le lieu, un lieu vivant, où la vie grand V rencontre la vie petit V. Alléluia. Et lorsque la vie grand V rencontre la vie petit V, eh bien, il la remplit.
Alléluia.
Il la comble. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, pour aller plus vite, c'est après avoir rencontré le Seigneur, c'est au travers d'une rencontre personnelle, existentielle, avec le Seigneur, que les hommes finissent par développer la vision de Dieu.
Alléluia.
Moïse, avant d'être un outil entre les mains du Seigneur, pour le salut de son peuple, la délivrance de son peuple, avant d'être un outil entre les mains du Seigneur, pour la proclamation de la loi de Dieu, qui était l'expression de la volonté de Dieu, qui était la révélation de Dieu, Moïse a rencontré le Seigneur sur le mont Morija, le mont Horeb plutôt. Là, Dieu s'est révélé au travers d'un buisson ardent. Et là, Moïse a réalisé, le Seigneur lui a dit, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais il était déjà passé par là, à plusieurs reprises, oui ou non. Mais cette fois-ci, ce lieu devient saint, non pas parce que tout d'un coup la nature du sol a changé, non par la présence de celui qui brûlait au travers de cet arbuste. Voyez-vous? Et là, Moïse a compris. Dieu s'est donné à voir à lui. Dieu s'est révélé à lui. En même temps, Dieu lui a partagé sa préoccupation, le salut de son peuple d'Israël. C'est à partir seulement de ce moment-là que Moïse va partir.
Alléluia.
Gloire au Seigneur. Josué, en route pour la conquête de la terre promise. Après avoir succédé à Moïse, la Bible nous dit qu'il arrive quelque part en face de Jéricho. Avant d'amorcer la conquête de Jéricho, la Bible nous dit au chapitre 5, Josué rencontra le chef, le capitaine de l'armée du Seigneur. Alléluia. Il a eu une rencontre avec le chef de l'armée du Seigneur avant de se lancer à la conquête de Jéricho. Puisqu'il l'a rencontré, il a acquis la vision que normalement, il y avait une armée qui combattait pour Josué. C'est pourquoi Dieu le Seigneur lui dira, allez, va, tu ne vas même pas utiliser l'épée. Demande simplement aux gens de faire le tour de la ville. Voyez-vous, premier jour, deuxième jour et au septième jour, sonnez de la trompette. Et quand ils ont obéi à la parole de Dieu, eh bien la ville de Jéricho est tombée. Josué a rencontré le capitaine de l'armée céleste, le Seigneur de gloire. Alléluia. Et c'est seulement au chapitre 6 que Jéricho tombe. Mes amis, nous devons apprendre à entrer régulièrement dans la présence du Seigneur. C'est là que nous pouvons recevoir la vision. Prendre une résolution ferme d'entrer régulièrement dans sa présence. C'est dans le même écal, dans le lieu saint, que plus tard, beaucoup plus tard, des siècles plus tard, Zacharie, qui était sacrificateur, Marie, époux d'Élisabeth, eh bien, c'est toujours dans le écal que l'ange Gabriel, mes amis, va se révéler à lui et va donc lui apporter une bonne nouvelle selon laquelle sa prière venait d'être exaucée. C'est dans le écal. Dans la présence de Dieu, mes amis, Dieu nous donne des promesses, les vraies promesses, pas des promesses qu'on vend sur des cartes prophétiques. Pas de promesses comme ça, Dieu m'a dit ceci, cela. Oui, Dieu peut parler. Mais lorsque nous sommes dans sa présence, eh bien, Zacharie a reçu cette promesse alors qu'il était dans le écal. L'ange Gabriel l'a rassuré après autant d'années. Bien que l'âge ait pris le dessus, eh bien, sache une chose, c'est que Dieu m'envoie pour te donner cette bonne nouvelle. Tu auras un fils. Encore une fois, l'ange est affirmatif. Tu auras le fils là dans sa présence. Eh bien, Dieu parle de manière claire. Il ne recourt pas au rébus, je ne sais pas quoi. Il ne parle pas en message codé, en langage informatique. Non. Il parle de manière claire. Tu auras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Qui veut dire Adonai fait grâce. L'ange l'a rassuré, lui a donné cette parole. Dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire dans le écal. Lorsque nous entrons dans ce lieu-là, nous recevons la vraie vision de Dieu. C'est ainsi que le psaume 17, verset 15, j'aime beaucoup ce psaume et ce passage, où le psalmiste se dit, « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, je précède l'aurore. Seigneur, je te donne mes meilleures heures de la journée. » Car cela, en entrant dans ta présence, en entrant dans le lieu saint, c'est là, Seigneur, que tu me donnes de me rassasier de ton image. Et étant rassasié de ton image, eh bien, je peux alors me voir comme tu me vois. Paul, écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, il pouvait leur dire, nous tous qui le visage dévoilé, c'est dans le saint des saints, que le voile, il y a un voile de la chair qui plane sur le cœur. Nous tous qui le visage dévoilé littéralement. Je crois que c'est le verset 18. Nous tous qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. C'est là que nous sommes transformés. C'est là que nous sommes transfigurés de gloire en gloire, dans la même image. Oh, gloire au Seigneur. Mes amis, le monde essaie d'injecter toutes sortes de pensées négatives en nous. La chair essaie de semer en nous du poison. Le diable essaie de nous distraire. Voyez-vous? Mais c'est que le Seigneur attend que nous prenions la résolution d'entrer régulièrement dans sa présence. Car c'est là, mes amis, dans sa présence, dans le lieu saint, que Dieu travaille notre vision de sa personne. En même temps, il travaille notre propre cœur. En même temps, il nous communique la vision des besoins des gens avec qui nous vivons. Alléluia. Si nous agissons de cette manière, eh bien Dieu deviendra une réalité palpable pour nous. Alléluia. C'est ainsi que nous avons eu 2 semaines, à chaque fois 3 jours de jeûne et de prière. C'était une occasion pour chacun de nous d'entrer dans sa présence, de s'y attarder, de se réjouir en sa présence, de laisser Dieu imprimer son image en nous. Et beaucoup ont été bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, tu veux que nous croissions, nous grandissions dans ta connaissance. Mais cette connaissance, Seigneur, est la conséquence du développement de l'acquisition d'une vision de toi qui soit correcte, qui soit appropriée. Nous ne pouvons pas grandir, Seigneur, en toi si nous ne développons pas une conception de toi qui soit le reflet, qui soit la traduction de toutes les vérités telles que nous les trouvons dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à entrer régulièrement dans le lieu saint. Aide-nous à paraître régulièrement devant ta face. À laisser ta parole nous imprégner, Seigneur. C'est alors que nous grandirons dans ta connaissance. C'est alors, ô Dieu, que ton image s'imprimera davantage en nous et que nous-mêmes nous serons de plus en plus transformés en toi et par toi. Merci Jésus. Merci Seigneur.